Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the internet at CIUT.FM or live from our studio. Pourquoi Show targets student listeners who want to explore and travel through the Francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands, and features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target, Popori Show, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m., in partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.p-o-u-r-r-i@simpatico.ca.
Êtes-vous un fournisseur de services? Faites-vous partie de la communauté francophone? Connaissez-vous vos droits pour recevoir des soins de santé en français? Qu'est-ce que l'offre active en santé? Alors, Reflet Salvéo, l'organisme à but non lucratif, est là pour vous accompagner dans votre démarche pour trouver des soins, des bons services en santé. Reflet Salvéo est chargé d'engager la communauté francophone dans son système de santé, mais également de conseiller les réseaux locaux d'intégration des services de santé sur leur politique de service. Connaissez-vous les slogans de Reflet Salvéo? Compétence, écoute, engagement, solidarité. Reflet Salvéo, le reflet des besoins en santé pour les francophones de la région. Que vous soyez immigrant, femme, jeune, personnes âgées ou personnes ayant un handicap, ou vivant avec le VIH, Reflet Salvéo prend en compte vos besoins dans son plan d'action. Découvrez toutes les thématiques, les projets et les offres d'emploi disponibles en ce moment chez Reflet Salvéo en visitant le site web www.refletsalvéo.ca. Faites comme Christopher, devenez membre et prenez votre santé en main. Communauté informée, communauté en santé, ça commence chez Reflet Salvéo.
Salut à tous, c'est Bob Sinclair, bienvenue dans le Bob Sinclair Show. Un tout nouveau show rien que pour vous. J'espère que tout le monde est prêt, c'est parti.
Et oui, madame, monsieur, du 5 au 26 mars 2017, soyez des nôtres, soyez parmi nos invités, nos préférés ou encore nos auditeurs, que ce soit en direct ou virtuel, avec nos partenaires. Nous vous convions à un mois de célébration et d'activité pour célébrer la langue française et les 30 ans de notre radio CUT 89,5 FM. 30 ans de francophonie à CUT 89,5 FM, langue française, diversité linguistique, mois de mars 2017, mois de la francophonie. Soyez les nôtres chaque dimanche de 11h à 13h. Table ronde, débat, concours, rencontres avec des chercheurs, des professeurs, des journalistes, des écrivains et des artistes. Soyez les nôtres pour gagner des prix, qui sait. Et nous remercions bien sincèrement le département d'études françaises, campus de Saint-Georges et de Mississauga, langue française, diversité linguistique, le CREFO, 40 ans de recherche et d'enseignement, l'Express de Toronto, 40 ans d'existence. Quels sont les défis depuis l'avènement de l'Internet et des médias sociaux? Soyez des nôtres tout au long du mois de mars avec CUT 89,5 FM, un mois de célébration et d'activité pour célébrer la langue française et les 30 ans de CUT FM. En février, CUTFM souligne le mois de l'histoire des Noirs et son 30e anniversaire. La thématique de 2017, ici pour rester, ici pour durer. Merci à tous nos partenaires qui ont permis au succès de notre édition Mois de l'histoire des Noirs 2017. Et l'ingénieur du son aujourd'hui, DJ Devera, assisté de Sloan Ballant au microphone, votre serviteur depuis bientôt 30 ans. Eric Kader sur www.cut.fm. Et oui, madame, monsieur, bien le bonjour, où que vous soyez à travers la planète, en ce dimanche 26 février, c'est la clôture, l'émission qui clôture le mois de l'histoire des Noirs. Quelle place ont les Noirs dans la société franco-ontarienne? Quelle place le Canada actuel et passé leur offre? Le bilan, réflexion, expérience, perspective, réaction des auditeurs invités. Et aujourd'hui, nous allons recevoir à nouveau le docteur Éric Pierre, consul honoraire d'Haïti. Il est le fondateur de Perspective Entraide Humanitaire et collaborateur de l'émission. Il était là lors de la première émission et il est avec nous lors de la dernière émission, émission de clôture. Merci. Et malgré toutes les lois antidiscriminatoires, antiracistes, la discrimination à l'embauche subie par les Noirs existe encore au Canada, en Ontario, dans la communauté francophone aussi. Quels sont vos droits? Où aller chercher de l'aide juridique? L'état des lieux sur la question de discrimination des Noirs? Et en quoi notre avocat expert peut-il vous aider? Nous avons le plaisir d'accueillir dans la deuxième heure Maître Cédric Lamarche du cabinet d'avocats Signe Lamarche, collaborateur, partenaire à cette émission. L'emploi demeure, comme vous le savez de manière évidente, le premier facteur socialisateur et intégrateur de l'individu dans une société. Nous allons vous présenter des recherches, des statistiques, des données de différents domaines du gouvernement du Canada, de l'Ontario, mais aussi du Québec. On verra bien. Et puis, les traites négrières, également appelées traites des nègres ou traites des noirs. Donc, nous allons faire le point avec un invité assez spécial. C'est Bernard Lougan. Il est historien et spécialiste sur l'Afrique. Toute la vérité sur l'Afrique, c'est le titre de son dernier ouvrage. Les Noirs ne connaissent pas l'histoire de la colonisation, vrai ou faux, vous nous appelez. Au 86-9-46-7000, je concours, le gagnant de la semaine dernière est Patrick Landau et ben, les gagnants, hein, il y avait aussi Wiltrud de l'Allemagne. Merci beaucoup à tous ceux et celles qui ont participé dès le début du mois à nos jeux concours. Et qui sait, si jamais vous répondez bien à toutes les réponses de chaque semaine, vous allez gagner un grand prix spécial, surprise, de nos partenaires. Et puis du journal L'Express de Toronto, rapidement, le Premier ministre Justin Trudeau a exprimé ses regrets pour avoir répondu en anglais à une question posée en français lors d'une assemblée publique à Peterborough, un peu à l'est de la ville de Toronto. C'était au mois de janvier, c'est toute une histoire à lire absolument dans le journal L'Express de Toronto. Une formation en offre active, qu'est-ce que c'est? Offre active de soins de santé pour les organismes anglophones ayant des clients francophones. C'était au Collège Boréal, mardi dernier, et oui, beaucoup de monde et succès. Initiative qui permettra de proposer à leurs patients francophones suivi de soins de santé dans leur langue, toujours dans l'Express de Toronto. Aussi, RFI Musique, musique francophone, d'ici et d'ailleurs, concert, biographie, buzz, sélection d'artistes francophones. Mois de la francophonie, tout au long de l'émission, nous allons vous donner un avant-goût de notre programmation qui démarre le 5 mars prochain et nous remercions infiniment Département d'études langagières, campus de Mississauga. Nous remercions bien sûr le département de français, campus de Saint-Georges, à côté de chez nous, ainsi que le centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, à l'Université de Toronto, le journal L'Express de Toronto, Ciné Franco, Radio France Internationale, Centre Canada Méditerranée, à l'Université York et le professeur Elie Bouraoui, Festival Compazouk de l'Ontario et People of Motherland Un monde de culture et ICS Interlink Consulting Services Inc. Pour plus de détails sur la semaine francophone, sur notre programmation, allez sur le site du Centre francophone www.semainefrancophonietoronto.com ou encore www.popourishow.com en un seul mot. Et les Oscars, on vient de m'envoyer un message, c'est ce soir monsieur, et oui nous allons être là, et on me dit les nominés pas si blancs que ça monsieur Kader, je ne sais pas, j'ai pas vu la liste complète. Et oui, notre jeu concours aujourd'hui, madame, monsieur, répondez correctement. Qui est la première personne noire à occuper le poste de lieutenant-gouverneur de l'Ontario? Je dis bien, qui est la première personne noire à occuper le poste de lieutenant-gouverneur de l'Ontario? Il a aussi occupé le poste de vice-royal au Canada et premier noir à être député, parlementaire et ministre du cabinet fédéral du Canada. Très intéressant. D'après vous, est-ce que c'est Monsieur Johnson, Madame ou Maître Juanita Westmoreland Traoré, Alain Tuak ou Lincoln Alexander? Alors, qui est la première personne noire à occuper le poste de lieutenant-gouverneur de l'Ontario? Vous nous envoyez un message à pot.pourri@sympatico.ca ou encore 4694367000 à partir de 11h30 midi. Popourri Show, 30 ans déjà, toute la diversité du monde sur votre fréquence.
Vous écoutez Popourri sur CUT 89,5 FM, le magazine de la francophonie en partenariat avec le département d'études françaises, Université de Toronto, le journal L'Express de Toronto et Radio France Internationale.
Mais ça tu peux plaire à chercher où. Mais toi nécessité, yo. Sécurité, santé à trop se manger. Nous c'est un peuple capable et bien sans souhait. C'est nous planter, c'est nous pour écolter tête calé, côté respect, nous y est soufflé. Besoin plus de moi, pour l'antipay, non. Pour jouer la vie, moi, pour prendre plaisir, moi. En pays professionnel, pour nous reconstruire Haïti. Pour même bien ingénieur qui leur a pour reconstruire pays.
Si ça va, maman,
elle va passer
la politique.
Paysan, agronome qui leur a pour reconstruire pays.
Si ça va, maman, elle va passer la politique.
Docteur auxiliaire qui faut jouer pour l'hôpital là. Mon vénon pays tout pour la vie sous politique. Si nous pas apprendre métier, nous prenons crier. Oh, comme on vénon pays tout pour la vie sous politique. Si nous pas apprendre métier, nous prenons crier. Ou même qui agite à qui leur a pour construire le pays.
Si ça va, maman, elle va passer la politique.
Et paysan, pour l'homme qui leur a pour boiser le pays. Et y a donc si jeune docteur qui faut que j'en pour l'hôpital là.
Mais si ma maman elle va passer la politique.
Chantez! Les amis, aidez-moi à me couvrir.
C'est
l'Haïti. Tout est haïtien. Et si nous prenons conscience, on peut rebâtir Haïti ensemble. Allô, bon, moi je reste au nom.
Haïti son pays soleil, pas qu'un pays artificiel. Et fait l'histoire de temps en
temps.
Passez vers la citadelle, mon petit coup de pied dans Ville Jacmel, nous avons l'histoire exclusivement. Nous gagnons un climat naturel, si nous reboisons la vie belle, si bagaille qui dit ça qu'à faire. Dans toute nation qui a fait merveille, c'est l'histoire haïtienne qui belle, et nous qu'à faire assez souvent. Et vous en belle, les cités soleil, mes amis gages, j'en fais fiel, le bon coué qui saute dans le ciel. Ouais, y'a gagné une histoire naturelle, à la sauce à qui vous appelle, on paye ensemble le vieux paquet. Ou même qui achète un kilo, on peut construire le pays.
Si ça va, maman, elle va passer la politique.
Et paysan, la colombe, elle va prévoiser.
Ah, ça fait du bien, madame, monsieur, en ce mois de février à Toronto, où que vous soyez. Je sais qu'il y a beaucoup d'amis, nous avons des amis qui sont de Californie, qui sont de passage ici, qui trouvent qu'il fait froid, mais ils attendaient voir la neige. Alors, on vous a donné un petit goût de carnaval à tous ces pays, Haïti en particulier, qui célèbrent le Mardi Gras. Et oui, New Orleans aussi, malheureusement, qui a eu un accident hier. Et Martinique, Guadeloupe, on vous dit bien le bonjour. Et toutes les îles qui célèbrent Mardi Gras qui s'en vient. Et oui, du 5 au 26 mars 2017, soyez des nôtres. CUT 89,5 FM et ses partenaires vous convient à un mois de célébration et d'activité pour célébrer la langue française et les 30 ans de notre radio. 30 ans de francophonie à CUT FM. Langue française, diversité linguistique, mois de mars 2017, mois de la francophonie. Table ronde, débat, concours, rencontre avec des chercheurs, des professeurs, des journalistes, des écrivains et des artistes. Soyez des nôtres. Le CREFO, 40 ans de recherche et d'enseignement. Le journal L'Express de Toronto, 40 ans d'existence. Quels sont les défis depuis l'avènement de l'Internet et des médias sociaux? Soyez des nôtres avec nos partenaires. Du 5 au 26 mars, le lundi 13 mars, un cocktail ciné réservé à tous les francophones du campus de Mississauga, l'Université de Toronto, à 18h30. Le jeudi 16 mars, soirée des talents, organisée pour les étudiants et le personnel du département d'études françaises au campus de Mississauga, l'Université de Toronto, avec un groupe franco-ontarien en invité spécial dès 18h30. Du chant, de la danse, de la musique, des sketchs et des scénettes extraites de l'œuvre théâtrale du dramaturge québécois Marcel Dubé. Le mardi 21 mars jusqu'au vendredi 24 mars, la francophonie vous apporte le printemps avec des croissants de 10h à 11h au département d'études françaises, Université York, Audit Hall, 50 rue Saint-Joseph. Le dimanche 19 mars, Journée internationale de la francophonie, édition 2017, une émission toute spéciale avec des invités, des correspondants sur les 5 continents. En partenariat avec les départements d'études françaises, l'Université de Toronto et le campus de Mississauga, le CREFO, le journal Express de Toronto. Le mercredi 22 mars, un cocktail, 30 ans de radio à Hot House au Music Room sur invitation seulement. Nous remercions nos partenaires, le département d'études françaises, campus de Toronto et de Mississauga, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, l'Université de Toronto, le journal L'Express de Toronto, Ciné Franco, Radio France Internationale, le Centre Canada Méditerranée, Université York, Reflet Salvéo, le Festival Compazouk et Interlink Consulting Services. Du 5 au 26 mars prochain, soyez sur CUT 89,5 FM et ses partenaires. We'll be right back. février, CUTFM souligne le mois de l'histoire des Noirs et le 30e anniversaire de cette radio du campus universitaire de Toronto, 30 ans déjà. Et cette année, nous célébrons les Noirs avec la thématique « Ici pour rester, ici pour durer ». Et encore une fois, merci à tous nos partenaires, tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont collaboré, ont permis au succès de notre émission spéciale « Mois de l'histoire des Noirs » édition 2017. Selon Statistique Canada, en 2001, les Noirs formaient le troisième groupe minoritaire visible en importance au Canada après les Chinois et les Asiatiques du Sud. Selon le recensement de 2001, on a dénombré plus de 600 000 Noirs, ceci représentant un peu plus de 2% de la population totale du Canada et 17% de la population minoritaire visible. À la veille, immigration noire, s'ajoute une nouvelle immigration en provenance des Caraïbes, de l'Amérique latine et d'Afrique. De nos jours, la discrimination n'a pas encore cessé malgré les notables progrès dans la lutte contre le phénomène de l'adoption de la Charte canadienne des droits et libertés qui affirme le caractère multiculturel du pays. Selon l'enquête sur la diversité ethnique de Statistique Canada réalisée en 2002, les personnes de toutes les minorités visibles à l'échelle canadienne se sentent victimes, victimes de discrimination ou de traitement injuste, notamment 50% des Noirs, 35% des Asiatiques du Sud-Est et 29% des Latino-Américains et 26% des Arabes. Dans la région métropolitaine de Toronto, 31% des minorités visibles ont répondu avoir été victimes de discrimination. Et dans le cas des communautés noires, cette proportion s'élève à 41%. Toujours selon la même étude concernant les crimes haineux, les personnes de la communauté juive étaient le plus souvent visées, 25%, suivies par les Noirs, 17%, les Asiatiques du Sud, 11%, et les musulmans, 11%. Aujourd'hui encore, des personnes d'origine asiatique, noire ou arabe, nées en intégré ou en Ontario, que ce soit au Québec depuis longtemps, continuent à être considérées par certains comme des étrangers. Eh oui, il y a des gens qui sont ici de 3, 4e génération, on les considère encore des étrangers, avec des valeurs présumées différentes de celles des Franco-Ontariens, des Québécois exclus, sur la base de cette différence. La dépréciation de ces personnes et la négation de leurs droits se font en raison d'une prétendue différence culturelle plutôt que d'une infériorité biologique.
C'était hier, en 1930. Le journal Le Matin fait sa une sur un reportage du grand écrivain Joseph Kessel. Aux confins de l'Afrique noire, Kessel a enquêté sur une pratique que l'on croyait d'un autre temps, la traite négrière. Sous ses yeux, des caravanes d'hommes, de femmes et d'enfants, épuisés, enchaînés. Kessel écrit.
De génération en génération, les ancêtres de ces misérables avaient été radiés, enlevés, vendus. Ils avaient servi de réserve à bétail humain.
Kessel parle à des esclaves. L'une d'elles lui dit :
Je ne me rappelle plus d'où je suis. Il y a très longtemps, près d'une grande forêt, un village a brûlé. Des hommes m'ont enlevé. J'ai eu beaucoup de peine à marcher loin avec eux. J'ai eu bien des maîtres, bien des enfants. Je ne me souviens plus. Les maîtres m'ont vendu, on m'a pris les enfants.
Les gardes sont des Arabes. La destination finale de leur bétail humain, l'Arabie Saoudite et le Yémen. À l'époque, les récits de Kessel fascinent l'Europe. Mais l'histoire s'oublie vite.
bientôt à l'émission.
Usted está escuchando
Terre d'Alliance.
Tierra de Alianza.
Terre d'Alliance.
Sur France Inter.
France Inter. France Inter.
Con Alexandre Héron.
Oui, bonjour.
Toronto, c'est les gens qui y habitent.
Pourquoi tu filmes? Tu enregistres en direct maintenant?
Toronto change au fur et à mesure que la population de la ville change. Et
comme ça?
Pourquoi pas? Son identité, c'est la culture et les désirs de devenir de chacun qui y habite.
On est live sur Twitter ou quoi?
Depuis le tout début de l'histoire du Canada, les personnes d'origine africaine ont fait d'importantes contributions au développement de notre grand pays.
Les balles de fusil.
William Hall est devenu le premier marin canadien, le premier néo-écossais et le premier noir à recevoir la croix de Victoria. Célébrons notre fier patrimoine. Célébrons le mois de l'histoire des Noirs.
Merci de nous accompagner ici à Port-au-Prince. Nous sommes dans le studio que RFI a monté tout spécialement pour ces deux heures d'émission que je vais avoir le plaisir de vous présenter en direct de la capitale haïtienne avec des invités, avec notre correspondante Amélie Baron. On va parler politique, société, on va parler de l'avenir d'Haïti. J'espère que vous serez fidèles au rendez-vous. On compte sur vous.
Employeurs, employés, connaissez-vous vos droits? Droits du travail en direct sur CUT 89,5 FM. Pour célébrer notre 30e anniversaire à l'antenne, nous sommes heureux de vous proposer une nouvelle chronique et un nouveau collaborateur et partenaire. Vos droits au travail, comment ça marche avec Maître Lamarche? Une fois par mois, Maître Lamarche du cabinet d'avocats Signe Lamarche, situé à Toronto, répondra à vos questions. Congédiement injustifié, congé de maternité, congédiement déguisé, droit de la personne, les obligations fiduciaires, les obligations post-emploi, le harcèlement au travail, les normes d'emploi, l'interprétation contractuelle, la rémunération pour des heures supplémentaires, les questions liées à la communauté LGBTQIA et les indemnités de départ. Vos droits au travail, comment ça marche avec Maître à la marche en direct à l'antenne.
The sound of your city. CIUT 89.5, Toronto. Listen to us on the go with TuneIn Radio's free app. Or go to the live stream at www.ciut.fm. Right here, right now, every day. CIUT 89.5 FM.
Vous écoutez Popourri sur CUT 89,5 FM, le magazine de la francophonie en partenariat avec le département d'études françaises, Université de Toronto, le journal L'Express de Toronto et Radio France Internationale.
Aujourd'hui encore se dresse au Bénin, sur le tombeau de Béhanzin, ancien souverain du Dahomey, l'emblème du royaume perdu, comme un appel à toutes les résistances à venir, comme une invitation faite aux Africains à se saisir de leur propre histoire. L'histoire de l'Afrique est une histoire d'humiliation, une histoire d'oppression, une histoire de discrimination.
Nous, les Africains, nous aurions toutes les raisons de dire « je baisse les bras ». Mais ce qui me plaît chez les Africains, c'est qu'ils ne baissent jamais les bras.
Tant que les lions n'auront pas leurs propres historiens, dit le proverbe africain, les histoires de chasse continueront de glorifier le chasseur.
Et oui, madame, monsieur, nous sommes de retour. Petit incident ici. Alors, je vous rappelle que vous écoutez aujourd'hui une émission un peu spéciale dans le cadre de la clôture du mois de l'histoire des Noirs. Quelle place ont les Noirs dans la société franco-ontarienne? Quelle place le Canada actuel et passé leur offre? Bilan, réflexion, expérience. Et aujourd'hui, nous allons recevoir notre invité qui était là lors de la première émission du mois de février, le docteur Éric Pierre, consul honoraire d'Haïti, fondateur de Perspective Entraide Humanitaire et collaborateur de l'émission. Oui, bonjour docteur Éric Pierre, vous êtes bien là?
Bonjour Éric Kader, bonjour à l'équipe de Popourri, oui. À l'auditoire francophone et francophile.
Oui, alors pour terminer, parce que là nous avons très peu de temps, nous avons quelques petits pépins techniques, ça arrive des fois. Et vous avez été là lors de notre première émission, beaucoup de réactions, parce que vous avez parlé, dit tout fort, à haute voix, ce que certains pensent tout bas et ne disent pas toujours. Et on voit qu'il y a un manque de dialogue dans certains milieux, je dis bien certains milieux de la communauté. Et là, pour parler de notre communauté première, c'est la communauté francophone, qu'on aime bien, n'est-ce pas? Et ça avait causé de bonnes discussions après l'émission. D'ailleurs, je vous ai partagé un peu les commentaires et les impressions des auditeurs, même en ligne, qui ont répondu. Alors, aujourd'hui, on est là pour faire un peu le bilan des avancées des membres de la communauté noire. Et ça comprend des Haïtiens, bien sûr, des Mauriciens, des Malgaches, des gens tout dans la diaspora africaine. Dieu sait qu'ils sont nombreux ici, originaires du Congo ou encore du Sénégal, de Côte d'Ivoire, de Cameroun et tant d'autres pays encore. Et ce qui est aussi frappant dans la communauté francophone immigrante, c'est que ces gens sont ici, il y en a beaucoup qui sont ici de deuxième, troisième, quatrième génération, mais beaucoup sont nés en Europe des fois, de parents d'origine africaine ou haïtienne et qui ont décidé de venir s'émigrer au Canada. Donc, ce sont des Français qui, finalement, arrivent ici, mais on les considère encore comme des étrangers et des gens qui ne sont pas francophones. Parce qu'il y a peut-être une incompréhension chez certains, y compris des francophones de souche, qui n'arrivent pas à identifier l'origine identitaire de tous ces Noirs qui parlent français et qui vivent sur notre territoire. Je sais que c'est une très longue question.
Oui, c'est une effectivement... Mais je peux quand même réagir à certains aspects de la question. Vous avez parlé de dialogue, vous avez parlé d'identité, et vous avez parlé, c'est-à-dire moi j'ai interprété ça comme un besoin de coordination. Un besoin de coordination, mais tout ça, en fait, entre dans le cadre des interréactions entre les différents groupes ethniques francophones de Toronto. Il y a eu des efforts, que j'ai observés durant mes quelques décades. Dans la communauté, il y a eu plusieurs efforts pour essayer de nous mettre dans la même tente, sous le même clocher. Mais pour une raison ou pour une autre, ces efforts ont commencé dans une atmosphère d'enthousiasme et puis se sont effrités. Et je pense que l'important pour nous, c'est de réanimer cet esprit de coordination, cet esprit de coopération entre les francophones de différents groupes ethniques et aussi les francophones qu'on pourrait appeler ce qu'on appelle en général le mainstream. Je pense qu'il y a ce besoin de coordination. Alors, pour réaliser que, effectivement, nous avons un besoin commun de maintenir notre identité francophone et aussi de nous courber sur les préoccupations des groupes, je dirais les couples les moins privilégiés.
Alors, je dois dire aux gens qui sont nouvellement arrivés, qui ne connaissent pas la petite histoire des communautés, on les appelle ethnoculturelles, immigrantes, comme vous voulez. Mais dans les années 80, ce que le docteur Éric Pierre voulait vous dire, c'est qu'il y avait cette volonté de consolider sur une base et sur un front commun toutes ces communautés, ces gens parlant français. Je me souviens, il y avait la création, la fondation de l'AMFO, l'Association multiculturelle francophone de l'Ontario, en grande pompe. Il y avait des ministres qui étaient là, du niveau fédéral, provincial, dans un grand hôtel. Et cette association avait rassemblé à l'époque 27 pays où on parle français. Et ça avait commencé à bien démarrer, faire des projets, mais finalement, il y a eu des problèmes et des défis énorme et cette association n'existe plus. Mais vous avez raison, dans les années 80, il y avait cette volonté de la part des immigrants francophones d'avoir un peu leur place au soleil, comme on dit, parmi toute la grande famille francophone de l'Ontario.
Justement, et je pense qu'il faudra réanimer cet esprit-là et il faudra réaliser que nous sommes de différents coins, mais nous sommes ici en partie à cause du contexte historique et économique. causée par le colonialisme et le néocolonialisme, la précarité des opportunités que nous avons dans nos pays, et que nous devons ici essayer d'aménager un coin qui accueille tout le monde.
Alors, il faut...
donc, il n'est pas question de... ceci, c'est un problème pour les Haïtiens, ceci, c'est un problème pour les Congolais, ceci, même, c'est un problème pour les LGBT, ceci, c'est un problème pour les aborigènes, un problème pour les Latinos. Si nous essayons, ou bien si nous osons tomber à cette tentation-là de répartir les problèmes et de permettre au système de s'attaquer à un petit groupe, c'est comme prendre des petits morceaux qu'on peut mastiquer à la fois, et après on prend un autre morceau. Et c'est ce que nous devons réaliser. Et... quand on parle de, par exemple, on parle de l'islamophobie, eh bien, on va s'attaquer aux musulmans, et ensuite, on va s'attaquer aux Haïtiens, on s'attaque aux Noirs, on s'attaque à cet autre groupe-là, et puis finalement, cette division-là ne fait que nous détruire.
Et au niveau de l'emploi, parce que ces gens arrivent aussi avec des bagages, je sais qu'il y a des gens qui sont des réfugiés, que ce soit politiques, pour des raisons d'orientation sexuelle ou autres. Donc, le Canada est une terre d'asile, hein, faut bien dire, et une terre qui accueille des immigrants depuis très longtemps, et un pays qui a, un fondement comparable à l'Europe, où on aide des gens à s'intégrer, à l'apprentissage de la langue, à connaître les cultures. Je dis bien les cultures au Canada, parce qu'il n'y a pas seulement qu'une culture. Et c'est peut-être plus difficile pour les gens âgés, on sait, d'apprendre une nouvelle langue. Mais pour les enfants, les gens dans la vingtaine, trentaine, ça se passe pas mal bien comparable à d'autres pays. Et donc, il y a des gens aussi qui sont des professionnels. Ça, on oublie souvent, quand on parle de l'immigration, qui arrive ici déjà avec une expertise professionnelle, et y compris dans la communauté francophone. Et les histoires, docteur Pierre, que j'entends depuis que je suis ici à cette antenne, il y a des obstacles énormes pour que les professionnels, les experts étrangers francophones arrivent à s'intégrer dans le marché du travail. On leur donne toutes sortes de raisons. On sait que le gouvernement fait un effort pour évaluer l'équivalence des diplômes. Dans certains cas, ça marche. Mais il y a encore, peut-être vous aussi, vous avez des histoires autour de vous, parce que ce n'est pas tous les Haïtiens qui arrivent ici qui sont des réfugiés, qui ont besoin d'aide, d'être sur l'assistance sociale. Il y a des gens qui arrivent déjà ici avec un bagage professionnel, mais qui ne sont pas souvent reconnus.
Je pense qu'on pourrait passer toute une émission à parler de ça. D'ailleurs, je suis en partie l'illustration des problèmes auxquels les gradués étrangers font face. Et c'est pourquoi je pense que nous avons besoin de ce genre de coordination pour partager les informations et aussi pour partager les histoires, pour partager les itinéraires, c'est-à-dire qu'on doit arriver à comprendre et à apprendre où est passé Éric Pierre, où est passé Éric Kader, pour que nous puissions atteindre le niveau auquel nous sommes arriver maintenant. Donc, il y a des agences disponibles. Le gouvernement a mis en place des institutions susceptibles de nous assister et d'assister les gradués étrangers. Mais il faut l'information. Quand le jeune médecin ou le jeune agronome ou le jeune, je ne sais quoi, enseignant arrive ici, si nous avons une organisation en place, une organisation francophone, étant donné que nous sommes francophones, qui puisse assister ces gens-là et pour leur dire, écoutez, il y a la commission sur l'équité qui existe, qui peut vous fournir des informations. Naturellement, vous savez autant que moi que Mme Jean Augustine fut la commissionnaire pendant un certain temps de cette commission sur l'équité et qu'elle a rencontré les différentes organisations professionnelles pour essayer justement d'aplanir les sentiers pour les professionnels qui ont été entraînés dans les autres pays. Donc, ce sont des informations à partager. Et quand on arrive ici, on est comme perdu dans un océan, on doit pouvoir trouver une boussole. Et la boussole, ce serait peut-être, ou bien je dirais en partie, des organisations. Je dois souligner un autre point. Initialement, vous avez parlé du Canada comme un abri. Effectivement, c'est un abri. Mais nous ne devons pas prendre acquis, qu'on considère comme acquis, le fait que le Canada reçoit les gens et puis fait des efforts. Il faudra aussi que ceux qui ont réussi à surmonter des obstacles, eh bien, qu'ils restent vigilants sur les efforts de certains secteurs, justement pour nous enlever ces acquis-là, ou bien pour... c'est comme pour faire une marche à reculons dans l'histoire.
On voit que ce qui se passe aux États-Unis, hein, à la revers d'une plume magique, on peut renverser 40 ans, 50 ans, 60 ans de progrès en un seul instant. Hein.
C'est incroyable. Et c'est pourquoi nous devons rester vigilants.
Oui. Alors, vous savez, pour les gens qui ne sont pas très au courant, moi, j'adore les statistiques, les études. C'est ça qui est bien au Canada. Hein. On fait des sondages, on veut savoir ce qu'en pensent les gens. Savez-vous qu'il y a plus de 47%, 47 à 50% de personnes d'origine africaine ou venant des Caraïbes, de l'Afrique, d'Haïti et tout ça, préfèrent comme lieu de résidence Toronto, comparable à 21% ailleurs, que ce soit au Colombie-Britannique ou le Québec, parce que ce sont les deux autres grandes provinces qui accueillent beaucoup d'immigrants. Alors, je trouve que 47 à 50%, docteur Pierre, c'est un pourcentage assez élevé.
Non seulement c'est un pourcentage assez élevé, il faut essayer d'analyser pourquoi. Pourquoi? Parce que je pense que Toronto, après tout, représente un modèle au monde, un modèle d'harmonie. Naturellement, il y a des problèmes. Et ce sont ces problèmes-là qui nous invitent à ne pas prendre comme acquis ce que nous avons.
Vous savez,
il faut continuer la lutte.
Mais vous savez, dans les années 90, il y avait le gouvernement socialiste de Bob Rae qui avait créé la commission sur l'équité en matière d'emploi, et avec Madame Juanita Westmoreland.
Oui.
Et ça avait fait des vagues énormes chez certains parce qu'ils avaient peur qu'on renverse la vapeur et qu'on discrimine envers eux, leurs enfants, parce qu'on va donner plus de place aux étrangers, aux femmes, aux personnes handicapées, aux autochtones. Donc, il y avait une campagne de peur, de salissage aussi, face à Madame Traoré, une très grande amie qui était juge tout récemment, qui vit à Montréal maintenant. Mm-hmm. Et, Et puis, il y avait des problèmes dans les écoles parce qu'il y avait beaucoup d'élèves, beaucoup de familles venant de certains pays d'Afrique qui ne se sentaient pas à l'aise, qui étaient discriminés par toutes sortes de verbiages, mais aussi des actes et des paroles disgracieuses de la part d'autres étudiants. Et des fois, certains enseignants n'avaient pas les outils de bord pour faire face à ça, pour ne pas nommer l'école en question. C'était Étienne Brûlé. Et je me souviens très bien de ça. On peut critiquer, mais à un moment donné, vous et moi, nous devons aussi apporter des solutions auprès des institutions, auprès de la communauté, pour jouer notre rôle de médiateur ou créer des bases de pont, je ne sais pas comment vous voulez appeler ça, mais il faut toujours, surtout si vous avez vous-même une certaine expertise, pourquoi ? Alors, je me souviens, j'avais monté des ateliers, c'était une douzaine d'ateliers, et on faisait intervenir des immigrants, par exemple, il y avait cette Haïtienne qui est maintenant infirmière, qui enseigne à la cité collégiale à l'époque, qui est venue nous présenter son parcours, ses difficultés, ses obstacles, le vaudou, tout son bagage culturel, et puis, finalement, elle a surmonté ces obstacles, et aujourd'hui, elle est enseignante à la cité collégiale. Il y en avait tant d'autres encore, des photographes, des cinéastes, des écrivains. Et les jeunes, le thème de ces rencontres, c'était « Où sont nos modèles ?» Aujourd'hui, Dr Pierre, en 2017, après toutes ces années de rencontres, de dialogues, de défrichages et de débats, pensez-vous que les jeunes d'origine africaine qui vivent ici ou haïtienne voient des modèles, des visages qui leur ressemblent, que ce soit dans nos médias, dans nos institutions publiques ou parapubliques? Est-ce qu'on est arrivé à un moment où on peut dire que oui, il y a une certaine équité, équilibre dans le partage du pouvoir, des postes de pouvoir?
Je pense que il y a un équilibre, mais c'est un équilibre fragile. Et c'est ce genre de situation, je vais peut-être répéter le mot pour la troisième fois dans l'émission, ça requiert de la vigilance. La première mesure que le gouvernement, qui a suivi le gouvernement de Bob Rae, a prise, la première mesure, c'était de mettre la clé à la porte.
Exactement.
Et ça a été une priorité pour ce gouvernement-là. Mettre la clé à la porte et mettre Madame Juanita Westmoreland à la porte. Fermer l'organisation. Donc, nous devons garder les yeux ouverts. Nous ne pouvons rien prendre comme acquis. Nous devons continuer à maintenir la lutte. Quelle que soit la situation ou bien le degré de promotion qu'on a atteint dans la société, eh bien, on doit réaliser qu'il y a eu des gens qui nous ont précédés, qui ont lutté pour ce que nous avons obtenu, et que maintenant, nous sommes dans une course à relais. C'est notre tour de prendre le bâton, continuer cette lutte-là, parce que c'est une lutte sans fin. Il n'y a pas de ligne d'arrivée. On doit continuer en attendant que nous autres aussi, nous passions le bâton, et nous devons continuer à inspirer les plus jeunes, surtout les gens qui sont du niveau secondaire à l'université, aux gens qui sont employés, et leur dire que ce que vous avez obtenu dans la vie, eh bien, c'est pas acquis. C'est pas définitif. Vous pouvez perdre ça d'un revers de la main. Vous pouvez perdre ça avec un ordre présidentiel. Vous pouvez perdre ça avec un nouveau gouvernement et avec des groupes qui tapissent dans les ombres. En attendant le moment propice pour s'attaquer à tout ce que vous avez. Et ce qu'ils vont faire d'abord, c'est vous identifier dans la rue, parce que votre visage, déjà la couleur de votre peau, eh bien, ça recèle un message.
On a qu'à voir le fils de Mohamed Ali aux États-Unis qui se fait interroger pendant des heures et des heures dans un aéroport aux États-Unis cette fin de semaine. Lui qui est né aux États-Unis, qui est connu par son papa et tout ça, c'est quand même effrayant ce qu'on est en train de vivre en 2017 quand on est noir ou bien musulman ou LGBT, transgenre. C'est incroyable, c'est incroyable. Je rappelle aux gens que nous sommes avec le docteur Éric Pierre. Malheureusement, le temps passe, nous devons terminer cet entretien. Il est consul honoraire d'Haïti, vous êtes dentiste aussi. Comme profession ici à Toronto, et vous êtes le président fondateur de l'organisme de charité Perspective Entraide Humanitaire, créé en 2002, et dont le mandat vise à appuyer des activités de secours d'urgence et des projets de développement en Haïti. Et vous êtes un ami ardent défenseur des droits de la personne aussi, on peut le dire de par votre discours, vos commentaires lors de notre émission précédente et aujourd'hui. Et j'espère qu'on aura l'occasion de vous entendre plus souvent à l'antenne, ça fait du bien.
Bon, et... j'espère aussi parler de Perspective Entraide Humanitaire, oui, parce que nous sommes en train de construire une école à la suite du tremblement de terre, et nous avons besoin de beaucoup, énormément de support. Le support est en train de désintégrer. L'attention aux besoins d'Haïti est en train d'atteindre un minimum inquiétant.
On fera une émission avec vous au mois de mars dans le cadre du mois de la francophonie et j'espère que vous serez parmi nos invités VIP pour le cocktail le 22, c'est sur invitation et on pourra en parler durant la semaine. J'aimerais tellement que vous soyez là et que vous dites un petit mot sur l'émission, sur la francophonie, parce qu'il va y avoir des gens, des universitaires, des gens de la radio, le conseil d'administration et la communauté. Alors merci au nom de toute l'équipe et de tous nos partenaires, et on se reparle très bientôt. Ce n'est qu'un au revoir, n'est-ce pas?
Merci, ce fut un grand plaisir pour moi de communiquer avec votre auditoire.
Oui, passez une bonne journée, docteur Pierre, et bonjour à la famille.
Merci bien.
Au revoir.
Au revoir.
Messieurs, voilà, c'est le grand moment aujourd'hui, clôture du mois de l'histoire des Noirs. Et aujourd'hui, nous avons eu l'occasion et le bonheur d'accueillir le docteur Éric Pierre, consul honoraire d'Haïti, fondateur de Perspective Entraide Humanitaire et collaborateur de l'émission. Je vous rappelle que dans la deuxième heure, nous allons recevoir le maître Cédric Lamarche du cabinet d'avocats Signe Lamarche, et nous allons passer en revue, si vous voulez, l'état des lieux sur la question de discrimination des Noirs et en quoi notre avocat expert peut-il vous aider, quels sont vos droits, où aller chercher de l'aide juridique avec maître Cédric Lamarche dans la deuxième heure. Sur CUT 89,5 FM, le magazine de la francophonie en partenariat avec le département d'études françaises, Université de Toronto, le journal L'Express Toronto et Radio France Internationale.
CIUT 89.5 FM, the station that brings you early North American country music and bluegrass on Radio Boogie with Steve Pritchard, Wednesday afternoons at 3.
CIUT 89.5 FM, the sound of your city.
The Study and Go Blood Fair is back on March 5th at the Metro Toronto Convention Centre. Meet face-to-face with top universities from around the world and start planning to travel. Learn about degrees in law, medicine, health sciences, arts, technology, pharmacy, business, hotel management, and much more. Check out the Travel Zone for volunteering, language programs, and work abroad. For more info, visit studyandgoabroad.com. Admission is free.
Right here, right now, every day. CIUT 89.5, the sound of your city. Hugo Lanoé.
L'essentiel de l'actualité en 3 minutes. Donald Trump n'assistera pas au dîner des correspondants de la Maison-Blanche. Une étape de plus dans le combat qu'il oppose aux journalistes. En parallèle, le Parti démocrate a son nouveau président. Il s'agit d'un proche de Barack Obama, Thomas Perez, originaire de la République dominicaine. L'homme est connu pour son combat pour les droits civiques. Sa feuille de route est claire, contrer le président Trump et réorganiser le parti pour revenir dans la majorité en 2018 et 2020. Les Brésiliens sont descendus par millions dans les rues samedi à grand renfort de musique et de danse pour faire honneur au carnaval, dans un contexte marqué par la récession économique et les scandales de corruption à répétition. C'est une histoire digne des meilleurs romans d'espionnage. 12 jours après l'assassinat de Kim Jong-nam, le demi-frère du leader nord-coréen à l'aéroport de Kuala Lumpur en Malaisie, qui a été tué, je vous le rappelle, au VX, un poison très puissant considéré comme une arme de destruction massive par l'ONU, eh bien deux des suspects ont raconté aux enquêteurs avoir été piégés, les deux femmes en question, pensées participer à une caméra cachée. Le ministre français de la Défense en visite à Niamey, au Niger, Jean-Yves Le Drian, annonce le déploiement temporaire de 80 soldats, dont des forces spéciales à Tillaberi, la région où l'armée nigérienne a perdu 15 hommes dans une attaque djihadiste cette semaine. Objectif pour cette force française, combattre la faction du groupe État islamique d'Al-Sarraoui. En Irak, la bataille de Mossoul se poursuit depuis 4 mois. Les troupes irakiennes aidées par la coalition internationale combattent l'EI dans l'ouest de cette deuxième ville d'Irak. Les ONG estiment à 750 000 le nombre d'habitants toujours encerclés dans le secteur ouest de la ville, dépourvus d'eau potable et d'électricité. En marge de ces combats, une journaliste kurde irakienne a été tuée. Shifa Gardi travaillait pour une télévision irakienne. Elle couvrait les combats à Mossoul. La journaliste a été tuée par l'explosion d'un engin. Son caméraman blessé, lui, a survécu. Dans le dossier syrien, les difficiles pourparlers de Genève, fragilisés par deux attentats survenus samedi matin à Homs, dans le centre de la Syrie, au moins 42 personnes ont perdu la vie, dont le chef syrien des renseignements militaires. Damas promet des représailles. L'ONU parle d'une opération de sabotage des négociations de paix. En Turquie, le pays a lancé ce samedi la campagne pour le oui dans le cadre du référendum du 16 avril prochain. Le peuple turc doit se prononcer pour ou contre le renforcement des pouvoirs du président Recep Tayyip Erdogan. Une personne tuée et deux blessés ce samedi en Allemagne. Une voiture a foncé sur des passants à Heidelberg, dans le sud du pays. Le conducteur touché par balle a été maîtrisé par la police allemande, qui ne sait pas pour le moment s'il s'agit d'un acte volontaire ou non, précisant qu'aucun indice ne faisait penser à un acte terroriste. 1h33 ici à Paris, 1h de moins en temps universel.
RFI, la radio mondiale. Il y a bientôt 15 ans, RFI, une trentaine de radios d'Afrique et de l'océan Indien, décidaient de se réunir afin de créer un concours permettant aux artistes du Sud de sortir de leur isolement et d'accéder à la scène internationale. Ainsi naquit le concours Découverte, qui s'est progressivement ouvert à toute l'Afrique francophone, puis anglophone et lusophone, et enfin aux Caraïbes et à l'Amérique latine. Découverte est donc bien aujourd'hui le plus grand concours musical au monde. Mais revenons à 81. Le grand gala clôturant le concours se passait à Dakar, parmi les lauréats, Nawa Doumbia du Mali.
Et oui, en février, CUT FM et ses partenaires soulignent le mois de l'histoire des Noirs. Et cette année, nous célébrons aussi notre 30e anniversaire. 30e anniversaire d'émission en langue française à la Radio Campus de l'Université de Toronto. La thématique du mois de l'histoire des Noirs 2017, ici pour rester, ici pour durer. Et je vous rappelle la question du dimanche. Nous n'avons pas eu de bonne réponse. Alors, vous avez encore un peu de temps. Si vous répondez correctement, exceptionnellement, je vous offre un laissez-passer pour deux à notre cocktail anniversaire et le mois de la francophonie le 22 mars prochain, ici au Hot House Music Room à partir de 19h. C'est sur invitation seulement, mais si vous répondez correctement à la question que voici, qui est la première personne noire à occuper le poste de lieutenant-gouverneur de l'Ontario, le poste de vice-royal au Canada et le premier noir à être député, parlementaire et ministre du cabinet fédéral du Canada, G.H. Johnson, maître Juanita Westmoreland Traoré, Alain Tuwak, ou Lincoln Alexander. Vous pouvez nous répondre à pot.pourri@sympatico.ca. Et oui, traite négrière, il y a encore malheureusement des sceptiques. C'est un extrait d'une émission de notre média partenaire qui pose la question: quelle Afrique pour demain? Et je pense que certains seront peut-être un peu surpris par le langage que tient notre invité. Il s'appelle Bernard Lougan. Il est historien spécialiste sur l'Afrique et il a écrit une œuvre pas très longtemps qui s'intitule « Toute la vérité sur l'Afrique ».
Et notre invité du jour est l'universitaire historien français Bernard Lougan. Bonsoir, merci d'être avec nous.
Bonsoir.
Vous êtes professeur à l'école de guerre à Paris et enseignant aux écoles Saint-Cyr, Coëtte, Quidan. Vous êtes fils d'officier de marine avant que votre père devienne avocat. Vous avez été étudiant en droit et en histoire. En fait, finalement, rien ne vous prédestinait à devenir le spécialiste, non pas incontesté, hein, mais le plus remarquable sur l'Afrique.
Si, de par mon tropisme familial, déjà, je suis né sur le continent africain,
au Maroc.
Oui, puis j'ai plusieurs générations nées en Afrique, et une partie de ma famille, nous avons rempli les cimetières du monde entier, de Tien Sin à Meknès, et de Nouvelle-Calédonie jusque dans le fin fond du Pacifique. Donc j'ai une famille de transmigrateurs, si vous le voulez.
Et pourquoi l'Afrique? Vous avez fait vos études à Paris, en région parisienne.
Pourquoi l'Afrique? Tout simplement parce que j'ai travaillé dès le départ sur un thème qui était tout à fait important, qui m'a forcé à aller en Afrique. J'ai commencé à travailler sur le premier conflit mondial en Afrique, et essentiellement en Afrique orientale. Et j'ai voulu faire ma thèse sur cette problématique, et finalement j'ai changé de sujet et je me suis mis à travailler sur les ethnies africaines. J'ai commencé en 1972-73, vous voyez, donc ça fait 40 ans d'africanisme, ça commence à compter.
Et c'est vrai que tout au long de votre carrière importante, de vos travaux tout aussi importants et reconnus, vous avez quand même toujours dû faire face à une contestation, celle, vous avez un jour dit, d'africaniste tiers-mondiste, par exemple. Alors, je ne m'arrêterai pas aux reproches qui vous ont été faits sur le caractère, par exemple, on vous a reproché votre livre, qui s'intitulait, je crois, Le Safari du Kaiser, d'être un livre romancé, mais comme c'était un roman historique, effectivement, c'était,
oui, c'est un récit,
c'était cohérent.
Un récit historique, oui, sûr.
Mais par contre, j'ai retenu une déclaration que je trouve plus intéressante, c'est que vous fit le président sénégalais Abdoulaye Wade. Qui vous a reproché de n'accorder aux Africains qu'une place dérisoire dans l'histoire. Ça rappelle un peu le discours de 2007 que vous avez peut-être influencé de président Sarkozy à Dakar, qui lui avait déclaré que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire.
Non, alors là, c'est tout à fait aberrant, parce que l'historien de l'Afrique que je suis, et qui a publié une quarantaine de livres sur l'Afrique, sur le passé de l'Afrique, montre justement que l'Afrique a un immense passé. Toute mon œuvre, si je puis ainsi la qualifier, est fondée précisément sur le passé de l'Afrique, sur l'histoire de l'Afrique. Donc dire que l'Afrique n'a pas d'histoire, c'est une aberration. Et où le président Sarkozy a commis un contresens et une maladresse folle, c'est de dire que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Ah bon ? Comme le disait Clémenceau, ou comme le disait le duc de Breuil avant 1914, à ce compte-là, les Ming, la Chine des Ming n'est pas rentrée dans l'histoire non plus. Le Maroc de ces dynasties n'est pas rentré dans l'histoire. Non, ce que voulait dire le président Sarkozy, en bon universaliste démocrate qu'il est,
C'est que pour lui, l'Afrique n'était pas entrée dans l'histoire parce qu'elle n'avait pas encore adopté notre philosophie des droits de l'homme et notre philosophie universaliste de la démocratie. Ceci est une arrogance qui a été très mal perçue en Afrique. Mais vouloir dire que l'Afrique n'a pas d'histoire, c'était une aberration.
Vous avez été rassuré quant à Dakar. 7 ans plus tard, le président Hollande a déclaré que lui considérait que l'Afrique est une partie de notre avenir. Là, vous avez été rassuré sur ce discours.
Oui, l'Afrique est une partie de notre avenir si il faut y prendre garde, parce que la démographie africaine est telle que si nous ne faisons rien, dans les décennies qui vont venir, nous allons subir une déferlante, une seconde phase déferlante, parce que la première déferlante, ce sont les pays d'Afrique du Nord qui vont la subir. Parce que l'Afrique du Nord, à l'exception de l'Égypte, est rentrée dans sa phase de mutation démographique. Un pays comme la Tunisie avait quasiment une démographie qui se rapprochait de la nôtre. Et le problème, c'est que en 2050, les Africains au sud du Sahara vont doubler, ils vont être pas loin de 2 milliards, et la pression va se faire, bien sûr, vers l'Afrique du Nord. Donc il va y avoir sur ce monde méditerranéen toute une pression qui va nous obliger à prendre des mesures, alors diverses mesures, à la fois des mesures défensives, mais également des mesures en amont, pour voir comment éviter que cette démographie vienne se déverser.
On va parler de la démographie.
Alors, vos différentes publications et également vos différentes prises de parole ont rencontré une forme de contestation assez importante qui vous a mené à subir une forme de censure. On se rappelle qu'en 2014, par exemple, vous deviez intervenir à l'Élysée, une contribution qui a finalement été annulé. Là, je crois pouvoir dire, sans me tromper, que vous deviez être reçu notamment par TV5 Monde, peut-être.
Oui, et par Michel Field aussi. J'ai été censuré 24 heures avant, oui.
Est-ce que, alors finalement, vous avez le sentiment de payer le prix de la vérité, une vérité qui n'est pas bonne à dire, visiblement, ou est-ce qu'au contraire, vous faites un peu de provocation volontaire ?
Alors, ma réponse va être en deux temps. Dans un premier temps, je vous répondrai comme Cyrano, déplaire est mon vice. J'aime sur mes pas raréfier les saluts. Bon, je ne vous réciterai pas tout Cyrano, je peux vous en réciter des passages entiers.
Bon, ça va venir. C'est l'émission Culture, Chaîne Brassier.
Absolument.
C'est le bienvenu.
Si tu savais, mon cher, comme l'on marche mieux sous la pistoletta d'excitante des yeux, comme sur le pourpoint font d'amusantes tâches, le fiel des envieux et la bave des lâches. Bon. Fin de la parenthèse et revenons, soyons sérieux. Quoique Rostan est très sérieux. Non, le problème, c'est que j'ai affaire à un monde universitaire africaniste complètement formaté et qui est l'héritier, la butte témoin de la pensée post-marxiste des années 70. Des vieillards par l'âge ou des vieillards par l'esprit qui sont encore dans l'époque de la lutte anti-impérialiste des années 1950-1970. Et pour eux, l'Afrique n'existe que telle qu'ils la projettent. Ce sont des réalités qui sont nées de leurs cerveaux intellectuels. Et tout ce qui est la vérité africaine, tout ce qui est la base africaine, tout ce que est, comme disait le fond, le socle, c'est-à-dire les peuples et les ethnies, ils le refusent. Pourquoi ? Ce sont des universalistes. Pour eux, l'homme est interchangeable. Et tout ce qui est définition ethnique est, pour eux, exclusion, séparation, et va dans un sens contraire à ce qui est leur philosophie profonde. C'est pour cela qu'il n'y a plus d'africanisme en France. C'est pour cela que les africanistes français ont disparu. Il y en a eu des grands. Moi, j'ai eu des maîtres qui étaient extraordinaires, mais ils sont tous morts. Et aujourd'hui, ce sont les petits esprits, ce sont, des lapins de coursive de l'africanisme qui règnent en maître sur les études africaines. En France, partout ailleurs, en Suisse, en Belgique, en Angleterre, partout ailleurs dans le monde, nous avons encore des africanistes. Pas en France, parce que nous avons des gens qui sont des idéologues avant toute chose. Idéologues parce qu'ils nient la réalité. Une terre, un peuple. Des terres, des peuples. Et pour eux, ceci est une aberration, car ils sont dans la filiation, ils sont les héritiers des philosophes du XVIIIe siècle et des grands penseurs de la Révolution française, l'universalisme.
Alors on va revenir sur tous ces points un peu plus tard en évoquant votre deuxième livre qui vient de paraître. Le premier, en revanche, s'intitule « Afrique, la guerre en carte ». C'est un ouvrage universitaire, presque encyclopédique finalement.
C'était mon cours à l'école de guerre et mon cours à Côte d'Ivoire que j'ai rassemblé pour le donner pour l'offrir un peu, pour permettre à tous ceux qui travaillent sur l'Afrique d'avoir des éléments tout à fait précis sur les réalités des crises africaines d'aujourd'hui et des crises de demain, parce que j'annonce également les crises de demain. Donc c'est un ouvrage effectivement très sérieux.
Avec, il y a plus de 100 cartes, 280 pages.
Oui, oui, tout à fait.
Finalement, à qui s'adresse ce type d'ouvrage ? Parce qu'en plus, je crois que vous, on ne peut pas le trouver en librairie.
Non, parce qu'aucun éditeur ne voulait l'éditer, ça coûtait trop cher. Alors j'ai créé ma propre petite maison d'édition et je l'édite en Irlande, parce que les coûts d'édition, et puis les Irlandais sont plus courageux que les éditeurs français. L'éditeur français, c'est un vendeur de papier. Vous savez, il n'y a plus de grands éditeurs en France, à part quelques petits, mais petit au sens noble, mais en France, l'édition est morte. Donc, ce livre s'adresse à qui ? D'abord aux militaires. C'est un livre que j'ai fait pour les militaires et pour tous les hommes de terrain qui vont en Afrique. Les investisseurs, les hommes qui vont en Afrique pour leurs affaires, et qui veulent sortir uniquement des analyses économiques et qui veulent voir ce qu'il y a derrière. Exemple d'erreur totale que l'on fait en France, j'avais l'autre jour un document du MEDEF entre les mains sur la situation actuelle en Afrique. Et il y avait un focus sur le Nigeria, avec un gros paragraphe sur le Nigeria. Alors on nous parlait de tout, le pétrole, etc. Pas un mot. Pas un mot sur la politique, pas un mot sur la religion, pas un mot sur les ethnies, pas un mot sur Boko Haram. Les Français ont une approche totalement idéologique pour ceux qui sont littéraires et politiques, et totalement économique pour ceux qui sont dans les sphères économiques. Ce qui fait qu'il y a le grand écart, et voilà pourquoi la France est en train de se planter lamentablement en Afrique entre les idéologues et ceux qui sont coupés des réalités par une analyse uniquement chiffrée économique. L'homo economicus ne peut pas comprendre l'Afrique.
On peut s'interroger aussi sur un point quand même, c'est le choix du titre, la guerre en carte. Est-ce qu'on ne peut pas concevoir l'Afrique autrement qu'à travers tous ces conflits ?
C'est un peu difficile. Et d'autant plus que ce livre, je l'ai fait, je vous l'ai dit, pour c'est mon cours à l'école de guerre et c'est mes cours à Coët. Donc nous formons des futurs chefs de section à Coët Guidant ou des officiers d'état-major à l'école de guerre. Donc il est important que ces gens aient une approche réelle du terrain parce qu'eux vont risquer leur peau sur le terrain. Vous savez, la différence entre un diplomate et un militaire, c'est simple. Le diplomate peut se planter, il peut se tromper. S'il est fait aux pattes, le COS ira le chercher. Tandis que si les militaires, eux, se font prendre, ce ne sont pas les diplomates qui iront les sortir. Donc les militaires sont condamnés à la réalité, alors que les diplomates et les philosophes peuvent s'amuser... Et les politiques peuvent s'amuser à faire des expériences. Il y aura derrière eux un parachute. Ils ont un parachute ventral pour aller les chercher. Donc c'est toujours la même chose. Les uns peuvent se payer le luxe de se tromper, les autres non, parce qu'ils mettent leur peau au bout de leur action.
Alors vous expliquez dans cet ouvrage, dont on voit à l'image l'adresse pour pouvoir se le procurer, les éléments, vous expliquez que la démographie africaine va conduire à la guerre. Alors vous donnez des chiffres qui sont évidents, la population augmente de 3% par an, elle double tous les 20 ans, en 2050, 25% de la population mondiale sera africaine, des chiffres incontestables, mais est-ce que ces faits amènent forcément... Une démographie importante amène à une démographie suicidaire, vous dites, et crisogène. On peut penser, par exemple, en faisant un rapprochement avec l'Inde, que cette démographie galopante n'a pas entraîné des conflits et des guerres particulières.
Votre question est essentielle, elle est au cœur du problème. De tout temps, l'Extrême-Orient et l'Inde ont été confrontés à une pression démographique. Ce qui fait que depuis, l'archéologie le montre bien, depuis plusieurs milliers d'années, dans ces sociétés ont été intégrées les notions de pression démographique. Or, jusqu'à la période coloniale, l'Afrique était tout au contraire un monde de basse pression démographique. Ce qui fait que c'est un traumatisme pour l'Afrique. La surpression démographique est un traumatisme récent. Alors que l'Inde, l'Asie, la Chine, le Japon... ont intégré cela au cours des millénaires, d'où la civilisation de la rizière, la civilisation de l'utilisation de l'espace de plus en plus réduit, une marqueterie agricole. L'Afrique, au contraire, était un continent de grands espaces qui étaient vides. Et on est passé entre 1900 et aujourd'hui, c'est-à-dire un siècle et demi, d'une Afrique vide à une Afrique surpeuplée. C'est un traumatisme historique que l'Afrique n'a pas surmonté, car les habitudes anciennes d'utilisation d'immensité vierge est toujours dans les mentalités. Et voilà pourquoi nous sommes face à un très grave problème. Deuxième problème, l'Asie était un monde urbanisé. Il y avait des villes. En Afrique, non, sauf en Afrique du Nord, c'est un autre problème. La ville n'existait pas dans l'Afrique précoloniale, ou très peu. Il y avait des capitales royales, mais il n'y avait pas de villes. Or, aujourd'hui, nous voyons que ces villes, qui sont de véritables chancres, qui se développent sur le littoral africain, sont des villes qui ne produisent strictement rien. Des villes dans lesquelles viennent se concentrer des consommateurs. Et qui plus est, ces villes attirent à elles les seules forces vives de l'Afrique, qui sont ces paysans. Donc nous voyons, d'un côté, une population qui augmente, qui se concentre dans des zones dans lesquelles l'on ne produit rien, et qui en plus pompe la substance du pays. Donc nous sommes face à un problème évident. Le génocide du Rwanda est le produit de deux phénomènes, la démocratie et la démographie. La démocratie, nous en parlerons tout à l'heure. Il est bien évident que, prenons l'exemple du Rwanda, j'ai fait mes deux thèses sur le Rwanda, je connais bien la question. J'ai enseigné plus de 10 ans à l'université du Rwanda, je connais bien la question. Il y a toujours eu des tensions entre les Tutsis et les Hutus. Mais des tensions dans un espace vide ne provoquent pas les mêmes tensions que dans un espace borné. À partir du moment où une population qui était de moins de 1 million d'habitants en 1900, lorsque les Allemands s'installent au Rwanda et au Burundi, en 1898, il y a 1 million d'habitants pour les deux pays. Quand les Belges donnent l'indépendance au Rwanda et à l'Urundi et au Burundi, dans les années 60, il y a 4 millions d'habitants dans chaque pays. Quand j'arrive au Rwanda en 1972, il y a 6 millions d'habitants. Quand je quitte le Rwanda en 1983, il y en a 9 millions. Il y a eu le génocide et ils sont plus de 10 millions. Donc, ce n'est pas possible sur un pays qui est grand comme deux départements français, avec une petite partie cultivable simplement, parce que ce sont des zones de montagne qui ne sont pas cultivables, il est bien évident que soit vous faites de l'élevage de lapins en caisse, n'est-ce pas, et vous forcez les gens à vivre dans des colcoses, ou alors, peut-être avec le temps, va se développer une économie type économie chinoise, économie de la rizière, etc. Mais dans l'immédiat, nous avons bien entendu des problèmes. Et ce génocide va être possible, pourquoi? Parce que cette surpression démographique, la cocotte minute va exploser. Alors, rajoutez à cela la démocratie qui crée tous les facteurs de division, et vous avez le génocide du Rwanda.
Alors, est-ce que quand même, il n'y a pas un paradoxe à voir que l'un des seuls pays d'Afrique dont on dit qu'il s'en sort un peu économiquement, qui est le Nigeria, c'est là où la surpopulation est la plus forte.
Mais c'est une plaisanterie. Dire que le Nigeria s'en sort,
c'est bien ce que vous devez lire dans le document du MEDEF, non?
Mais c'est une plaisanterie. Le Nigeria est un état catastrophe. Le Nigeria est l'archétype même de l'échec africain. Le Nigeria connaît des problèmes qui sont des problèmes économiques, politiques, religieux, géographiques, des problèmes sécuritaires, des problèmes de corruption, des problèmes qui sont absolument immenses.
Le pétrole.
Oui, mais le pétrole n'a jamais développé l'Afrique. Tous les pays producteurs de pétrole sont des pays en difficulté. La Libye, prenons l'exemple des grands pays producteurs de pétrole. Tous sont en crise. En plus, maintenant, avec l'effondrement du prix du pétrole. Alors, ceci a été masqué tant que le pétrole était à des cours très élevés. Mais nous sommes des pays de monoproduction. Un pays comme la Libye, par exemple, ou un pays comme l'Algérie, qui tire 98% de leurs ressources du pétrole et du gaz, sont en train de mourir. La Libye pour d'autres causes. L'Algérie est en train de mourir avec l'effondrement du prix du pétrole. Chaque jour qui passe, l'Algérie s'appauvrit, avec en plus un épuisement des champs pétrolifères à échelle de 25 ans et du gaz qui sera moins vendu à l'étranger puisque l'Algérie va consommer désormais 40% de sa production pour sa consommation intérieure. Donc ça fera autant de devises en moins qui vont rentrer. Donc ils vont dans le mur là aussi. Le Nigeria est un pays qui est en permanence au bord de l'éclatement. Dire que le Nigeria est un pays qui s'est développé, c'est un refus de réalité, un déni de réalité rare.
C'est ainsi qu'on va terminer cette première partie. Et pour...
Pouvoir danser, c'est le plus grand signe de liberté. Pouvoir chanter, c'est le pouvoir même de la liberté. Muntu. On a quitté nos pays en grand nombre.
descend derrière nous. C'est tunnel sombre, la fin justifie les moyens. On prend la mer, déterminé à échapper à la misère. Même si on fait les derniers mètres à la nage, notre but c'est d'atteindre l'autre rivage. Qu'importe les orages, chers dirigeants, qu'à nos yeux croisent l'Occident. On saute la liberté, on crie la liberté, on danse la liberté, c'est la liberté. On saute la liberté, on crie la liberté, on danse la liberté, c'est la liberté. Laisse-moi chanter, laisse-moi danser, laisse-moi goûter ma liberté. Moi je viens de loin, je viens de loin, tais-moi de loin. Oh, fuyant des politiciens et des groupes armés, on est venu en traversant la Méditerranée. Certains s'énoient sans laisser aucun indice, car surchargés sur une pirogue des moins délices. C'est les champs pour tous ceux qui cherchent la liberté, pour ceux qui laissent tout derrière eux pour une vie meilleure, pour ceux qui traversent un long tunnel pour voir le soleil, pour ceux qui tiennent les coups malgré les manques de sommeil. On saute la liberté, on crie la liberté, on danse la liberté.
Moi, personnellement, je dirais, je suis né à la fin de l'époque coloniale. Donc, dans mon enfance, j'ai vécu la colonisation. J'ai vu mes parents vivre la colonisation. Je n'ai pas du tout le sentiment que l'on puisse dire qu'il y avait des choses positives. Il y avait des gens bien dans le système colonial. En effet, il y avait des gens qui étaient très bien à titre individuel. Mais le système colonial en tant que système me semble avoir été de bout en bout une chose qui était mal ficelée, qui vivait sur une ambiguïté. Et la réalité de la colonisation n'a jamais correspondu au discours.
Vous écoutez Popourri sur CUT 89,5 FM, le magazine de la francophonie en partenariat avec le département d'études françaises, Université de Toronto, le journal L'Express de Toronto et Radio France Internationale.
The sound of your city. Right here, right now, every day. CIUT 89.5, Toronto.
Bienvenue dans le Bob Sinclair Show. Un tout nouveau show rien que pour vous. J'espère que tout le monde est prêt, c'est parti.
Et oui, mesdames, messieurs, du 5 au 26 mars 2017, soyez parmi nos invités, soyez au premier rang. CUTFM et ses partenaires vous convient à un mois de célébration et d'activité pour célébrer, tenez-vous bien, la langue française et les 30 ans de notre radio, CUTFM. Ans de francophonie à CUTFM. Langue française, diversité linguistique. Le CREFO, 40 ans de recherche et d'enseignement. L'Express de Toronto, 40 ans d'existence. Et soyez parmi les activités de tous nos partenaires sur le campus de Toronto, St. George, et le campus de Mississauga. Et oui, cette année, ça va barder, comme on dit, ça va fêter en grand. Table ronde, débat, concours, spectacle, rencontre avec des DJ, des chercheurs, des professeurs, des journalistes, des écrivains et des artistes. Et attention, il y aura un grand prix. Merci à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto, Ciné Franco, Radio France Internationale, le Centre Canada Méditerranée, Université York, Reflet Salvéo, Festival Compazou, Internet Consulting Services et Reflet Salvéo, bien sûr. Et oui, du 5 au 26 mars, soyez parmi nos invités, soyez au premier rang pour célébrer la langue française dans toute sa vitalité, dans toute sa diversité sur CUT 89,5 FM. Pour tout savoir, www.popourishow.com. Employeurs, employés, connaissez-vous vos droits? Droits du travail en direct sur CUT 89,5 FM. Pour célébrer notre 30e anniversaire à l'antenne, nous sommes heureux de vous proposer une nouvelle chronique et un nouveau collaborateur et partenaire. Vos droits au travail, comment ça marche avec Maître Lamarche. Une fois par mois, Maître Lamarche du cabinet d'avocats Signe Lamarche, situé à Toronto, répondra à vos questions. Congédiement injustifié, congé de maternité, congédiement déguisé, droit de la personne, les obligations fiduciaires, les obligations post-emploi, le harcèlement au travail, les normes d'emploi, l'interprétation contractuelle, la rémunération pour des heures supplémentaires, les questions liées à la communauté LGBTQIA et les indemnités de départ. Vos droits au travail, comment ça marche avec Maître Lamarche en direct à l'antenne. Février, CUT 89,5 FM et ses partenaires soulignent le mois de l'histoire des Noirs et le 30e anniversaire de votre radio. La thématique du mois de l'histoire des Noirs de cette année, ici pour rester, ici pour durer. Merci à tous nos partenaires qui ont permis au succès de notre édition 2017. Et rapidement, le jeu, le dernier jeu sur le mois de l'histoire des Noirs, madame, monsieur, aujourd'hui. Qui est la première personne noire à occuper le poste de lieutenant-gouverneur de l'Ontario, le poste de vice-royal au Canada et premier noir à être député parlementaire et ministre du cabinet fédéral du Canada? G.H. Johnson, Maître Juanita Westmoreland Traoré, Alain Tuak ou Lincoln Alexander? Vous envoyez votre message immédiatement. J'aimerais faire un tirage avant la fin de l'émission. pot.pourri@sympatico.ca et vous recevez un laissez-passer en exclusivité de notre radio, de notre émission pour le cocktail de la francophonie et de la radio. 30 ans de radio le 22 mars au Music Room Hot House, Université de Toronto. Bonne chance! Et oui, malgré toutes les lois antidiscriminatoires, antiracistes, la discrimination à l'embauche subie par les Noirs existe encore bel et bien au Canada, en Ontario, y compris peut-être dans la communauté francophone. Quels sont vos droits? Où aller chercher de l'aide juridique? L'état des lieux sur la question de discrimination des Noirs et en quoi notre avocat expert peut-il vous aider? Notre invité dans un instant, Maître Cédric Lamarche du cabinet d'avocats Signe Lamarche. Bonjour Maître Lamarche et merci beaucoup d'être là pour clôturer le mois de l'histoire des Noirs. On vous a raté à quelques reprises, mais nous sommes très heureux de vous avoir à nouveau à nos micros. Bonjour.
Bonjour, merci pour l'accueil chaleureux.
Alors, les gens disent, est-ce qu'on peut le voir un jour? Pourquoi vous ne faites pas une émission de télévision? Parce que il se peut que ça va attirer encore plus de clientèle.
Ça serait très intéressant, je suis d'avis.
Alors, c'est dommage, on est en 2017, Maître Lamarche, et vous êtes témoin de ce qui est en train de se passer un peu partout dans notre beau pays, et surtout sur le continent de l'Amérique du Nord. Vous êtes parmi ces experts, ces avocats qui militent pour les droits de la personne. Il y a d'ailleurs des beaux témoignages, hein. J'invite les gens à aller sur votre site web pour voir un peu les réactions, les commentaires de vos clients. C'est intéressant. Quel est le pourcentage de votre clientèle justement qui touche à la discrimination dans le monde de l'emploi?
C'est une excellente question. Heureusement, c'est pas un pourcentage qui a été très, très, très élevé, qui peut-être des fois pourrait être signe qu'il y a plusieurs gens qui n'osent pas aller faire réclamer leurs droits. Mais je dirais à peu près 5 à 10 de mes clients ont expérimenté de la discrimination en vertu de leur race. Mm-hmm. Mais vous savez, au Canada, on est assez choyé parce qu'on reconnaît la dignité inhérente de chaque individu. Puis on reconnaît qu'on a tous des droits. On a droit aux mêmes chances, sans discrimination, peu importe la couleur de notre peau, notre pays d'origine ou notre ethnicité. Puis justement, c'est pour ça qu'on a des lois spécifiques qui aident à prévenir la discrimination. En Ontario, on a le Code des droits de la personne. Puis au niveau fédéral, on a la loi canadienne sur les droits de la personne. Puis ce sont vraiment des lois qui ont établi afin de créer un climat de respect mutuel entre les gens. Afin que chacun et chacune d'entre nous, on puisse faire appel à une partie intégrale de la communauté qui, selon moi, en conséquence, nous encourage à y contribuer un peu plus activement. Mais dans le milieu de travail, pour être un peu plus spécifique, mm-hmm. ces lois-là prévoient que toute personne a droit à un traitement égal, à un climat sans harcèlement qui serait fondé sur la race ou l'ethnicité. Mais malheureusement, nos tribunaux ici au Canada, en Ontario, ont amplement reconnu l'existence du racisme au travail en dépit de ces lois-là, puis on doit se servir de ces lois afin d'exercer nos droits. Souvent, ce sont les minorités visibles qui font face à des obstacles assez importants dans leur milieu de travail, comme par exemple au moment de l'embauche, quand on parle de questions de salaire, les opportunités d'avancement, les promotions, des comportements abusifs dans le milieu de travail, puis aussi des questions de congédiement. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment les instances où on voit le plus souvent là, des actes discriminatoires.
Dans la communauté francophone, les gens souvent pensent, parce qu'on parle français, on a cet avantage, n'est-ce pas, de pouvoir avancer dans l'emploi.
Absolument,
Et tel n'est pas le cas, parce que beaucoup de gens qui ne veulent pas toujours dévoiler leur nom à l'antenne, et je respecte beaucoup la discrétion des gens, hein, n'est-ce pas. Mais souvent, on me dit, Eric, j'ai des diplômes, j'ai été formé à l'université, et même des fois au Canada, mais beaucoup sont des étrangers professionnels avec un bagage professionnel et culturel incroyable. C'est un atout pour la communauté francophone et pour le Canada dans son ensemble. Et souvent, c'est très difficile pour eux de mettre le doigt sur la discrimination. Et c'est tellement subtil dans certains cas, n'est-ce pas?
Exactement. Puis, j'irais bien dire que le nom des gens, donc votre prénom, votre nom de famille aussi peut donner lieu à des actes discriminatoires. Mais selon mon expérience, ce ne sont pas souvent des comportements, qui sont nécessairement intentionnels. Donc, c'est pas souvent qu'on voit où il y a un comportement malicieux envers des gens de minorité visible. Ça arrive, c'est plutôt rare, là, mais ça arrive, mais comme vous dites, c'est très subtil. Des fois, les gens le cachent bien, ils cachent leur motivation très bien. Souvent, les actes de discrimination, surtout dans le milieu de travail, parce que c'est ce que je vois, c'est le résultat d'un manque complet d'éducation ou d'information. Ou, je dirais même, parce que plusieurs gens nient toujours la réalité du racisme. Donc, c'est pour ça que nos tribunaux, nos lois jouent un rôle tellement important à s'assurer que les gens soient informés, éduqués et qu'on réalise que la discrimination existe. Puis, selon moi, ce qui est important, c'est de mobiliser la population. Donc, puisque ces attitudes racistes-là sont toujours répandues, puis que souvent sont soit acceptées ou ignorées, on mobilise les gens. Puis c'est la façon dont, selon moi, on peut arriver à assez de s'en défaire complètement.
Et aussi, c'est une façon pour les... Il y a deux fronts, là, je dirais. C'est les employeurs qui doivent avoir une campagne de sensibilisation, d'éducation pour les gens qui travaillent aux ressources humaines, pour ceux qui s'occupent de l'avancement et de diriger peut-être leur équipe au travail. Parce que souvent, on pense que tout le monde est sensible à l'équité, à la question d'équité, n'est-ce pas?
Exactement.
Et l'autre front, c'est aussi aux candidats ou bien aux employés qui pensent peut-être qu'ils ont été discriminés, de s'informer d'abord d'aller justement sur le site de la Commission des droits de la personne de l'Ontario, qui a le droit de la personne 101, qui vous aide à vous familiariser avec le système des droits de la personne de l'Ontario, parce que souvent il y a aussi un manque de connaissance de la part de celui ou de celle qui pense avoir été discriminé, n'est-ce pas?
Absolument, et puis je suis d'accord avec vous. Mon rôle comme avocat dans ce domaine-ci, chez les individus, c'est plutôt un rôle réactif que je joue. Mm. Puis avec les entreprises, c'est plutôt un rôle préventif. Donc si on discute de la question de mobilisation, c'est d'éduquer les gens, faire connaître nos droits. C'est un problème d'ailleurs que je vois surtout chez les nouveaux arrivés au pays, qui peut-être viennent d'un pays où ils n'ont aucune protection, ou que les protections sont pas respectées. Puis ils ne réalisent pas qu'ici au Canada, ils ont des droits, puis ils peuvent les exercer. Ce qui nous apporte à la prochaine question, c'est comment savoir faire réclamer nos droits? C'est quoi un processus de plainte qu'on peut suivre? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi les obligations de l'employeur?
Alors, justement, donnez-nous un petit peu quelques idées, quelques grandes lignes, des étapes à suivre, les premières étapes à suivre.
Bien, selon moi, la première étape, écoute, il n'y a pas de façon spécifique au niveau d'un processus de plainte. Comme je dis à mes clients, ça dépend des circonstances qui s'appliquent. Des fois, il faut escalader la chose beaucoup plus rapidement. C'est vraiment question des événements qui se sont produits. Mais dans un monde idéal, la première étape, ce serait de se plaindre auprès de la personne qui se comporte d'une façon discriminatoire. Donc, à leur faire savoir que leur comportement vous dérange, qu'il vous blesse, etc.
On le fait face à face ou bien par écrit? Est-ce qu'il ne faut pas garder justement des documents pour montrer qu'il y a un passé, une historique, non?
Oui, la documentation, c'est sûrement très important. Puis je peux y revenir. Selon moi, si on peut régler la chose à la souche avant que ça s'escalade, c'est d'essayer de créer un environnement qui est le moins hostile possible. Puis souvent, quand on écrit, les gens deviennent défensifs. Ça peut nous donner l'impression qu'on essaie de créer un paper trail, comme on appelle. Mm-hmm. Donc, selon moi, la première démarche, ce serait d'avoir une conversation directe, humaine. T'sais, écoute, ça me blesse quand tu utilises ce mot-là au travail, ou ça me blesse quand vous m'invitez pas à aller luncher avec vous. Puis là, si le comportement persiste, la prochaine étape, encore dans un monde idéal, ce serait de se plaindre auprès d'un cadre supérieur. Puis là, si le problème n'est pas réglé, parce que souvent les membres de cadre supérieur soit sont très occupés ou ne sont pas bien formés à répondre à des questions, des plaintes de discrimination, ça serait d'aller auprès des gens qui œuvrent dans un domaine de ressources humaines s'il y a un département dans l'entreprise. Puis habituellement, ces gens-là ont une formation spécifique, puis aussi ça donne lieu à un processus un peu plus formel. Puis là, finalement, il y a la question d'impliquer un avocat ou de faire appel au système juridique. C'est vraiment un processus qui est important à suivre, à la fois pour l'individu que pour l'entreprise. Parce que comme j'ai suggéré plus tôt, souvent les problèmes peuvent être réglés très rapidement sans avoir à escalader la chose qui habituellement apporte une certaine hostilité ou peut pousser quelqu'un à laisser son emploi ou à être congédié. Donc évidemment, si on peut créer un environnement où on règle le problème, avoir une discussion ouverte, une table ronde, selon moi, tout le monde gagne.
Mmh. Ou passer à la radio, et puis on arrive à peut-être jouer le rôle de médiateur.
Justement. Maintenant, quand on doit apporter la chose à l'attention d'une entreprise, donc soit au cadre supérieur ou ressources humaines, ce que ça cause, c'est qu'il y a un devoir, il y a une obligation juridique d'enquêter la plainte, puis de prendre les mesures adéquates, nécessaires, si on trouve qu'il y a eu de la discrimination, afin d'assurer un environnement sain et sans discrimination. Faute de quoi, il peut avoir des conséquences très, très, très importantes pour une entreprise, même si, en bout de ligne, il n'y a aucun acte discriminatoire. Donc, je vous donne un exemple. Il y a une plainte. Le cadre supérieur décide que c'est exagéré. On n'enquête même pas, on ne questionne pas, on ignore la plainte. Puis la personne apporte la chose devant un tribunal, réclamant qu'ils ont été victimes d'actes discriminatoires. Puis le tribunal trouve que non. Il n'y a pas suffisamment de preuves pour démontrer qu'il y a eu discrimination au milieu de travail, mais pourrait toujours imposer une pénalité parce que l'employeur a ignoré la plainte, n'a pas enquêté. Puis vraiment, c'est pour encourager, motiver les entreprises, les employeurs, à vraiment prendre toutes les plaintes de façon très, très, très sérieuse, parce que, encore, c'est très, très, très subtil des fois. Donc, ignorer une plainte qu'on pense, c'est pas vraiment une plainte légitime, mais en bout de ligne, ça pourrait l'être. Donc, même s'il n'y a pas eu de discrimination, l'employeur a un devoir assez important. C'est là où on trouve qu'il y a souvent des erreurs qui sont commises. Puis à revenir à votre point de la documentation, est-ce que c'est important? À la fois pour l'individu et l'entreprise, si jamais on se trouve devant un tribunal, puis je vous dirais que c'est vraiment une fois qu'on implique, on apporte la plainte à l'attention de l'entreprise, aux ressources humaines, cadre supérieur, que là, ça serait peut-être important de le faire par écrit, de faire un suivi, une conversation téléphonique ou une rencontre face à face avec un email ou une lettre pour confirmer ce qui a été discuté. Parce que là, si l'entreprise ignore toujours la plainte, on a preuve documentée qu'on a essayé de la porter à l'attention de l'entreprise puis qu'il n'y a rien qui a été fait. Puis aussi, Eric, malheureusement, nos mémoires sont pas toujours très bonnes.
Oui.
Puis, quand on se trouve en procès 2 ans après un incident, souvent, on manque des détails qui pourraient être très importants, qu'on aurait pu capturer dans un document écrit. Puis, une autre malheureuse réalité, c'est que les gens ne disent pas toujours la vérité, ou on exagère, surtout quand on essaie de se protéger. Donc, encore, je suis d'accord avec vous, la documentation, surtout comme avocat, quand que je rencontre un client, c'est une des premières choses que je demande, c'est « OK, est-ce que sûrement, tu as documenté l'incident, tu as le email où tu as porté plainte, parce que à faute de quoi, ça peut créer un obstacle assez important à avancer la chose.
Notre invité aujourd'hui, madame, monsieur, maître Cédric Lamarche du cabinet d'avocats Signe Lamarche. Allez sur leur site www.signelamarche.com. Cédric Lamarche, son site est en français aussi. Et là, vous allez voir le petit lien de l'émission. Alors, pour terminer, rapidement, on me fait des grands babayes de l'autre côté. Est-ce qu'il y a eu un cas où vous avez eu gain de cause et le client, la cliente était contente sur discrimination raciale toujours là? Est-ce qu'il y a un cas en particulier qui vous revient en mémoire?
Oui, heureusement, Eric, il y a plusieurs de mes cas qui ne vont pas en procès parce qu'on règle à l'amiable. Justement parce que les gens réalisent qu'il y a un risque, il y a des coûts impliqués. Puis des procès, c'est pas facile pour les victimes, puis pour les témoins non plus. Mais il y a un cas en particulier, c'est le cas de Morgan contre Herman Miller Canada, qui est allé devant le tribunal des droits de la personne en 2013. J'ai été intimement impliqué, surtout au niveau de la recherche juridique dans ce dossier-là, la préparation de témoins. Monsieur Morgan est à l'emploi de Herman Miller, c'est un individu de race noire. Ce qui est arrivé, c'est que la compagnie lui déléguait des tâches qui n'étaient pas nécessairement qui faisaient partie de ses tâches régulières. C'est des tâches que lui indiquait étaient plutôt comme des tâches pour un ouvrier. C'est un superviseur au sein de l'entreprise. C'est un bon exemple de ce que je viens de vous parler au niveau du devoir de faire une enquête. Monsieur Morgan a fait plainte auprès de l'entreprise qui pensait que les actes étaient discriminatoires. On le traitait différemment que les autres de race blanche. Puis le tribunal, en bout de ligne, a trouvé qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour établir qu'il y avait effectivement un comportement discriminatoire de la compagnie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est suite à sa plainte, la compagnie a décidé d'ignorer la plainte, a décidé qu'elle n'était pas fondée, sans même parler à des témoins, à enquêter la chose. Et suite à quoi, on a aussi congédié M. Morgan. Donc, on a décidé que c'est quelque chose que je suggère, que c'était plutôt facile de se débarrasser du problème, qui a essayé d'enquêter, puis écoute, si on avait enquêté, on aurait déterminé qu'il n'y avait pas de discrimination, puis on aurait pu régler la chose, j'espère, à l'amiable. Puis les dommages qui ont été octroyés étaient assez importants. Monsieur Morgan a gagné 14 mois de salaire.
Wow.
Parce qu'il a accusé une perte de salaire assez importante. Puis aussi, il y a eu 15 000 $ en dommages pour préjudice à sa dignité qui lui ont été accordés aussi. Puis quelque chose de très intéressant aussi, ce que le tribunal a fait, a obligé la compagnie à aller embaucher un expert dans le droit de la personne pour revoir leur politique, puis aussi de fournir une formation au cadre de l'entreprise.
Alors, merci infiniment, Maître Cédric Lamarche. On va se voir le 22 pour notre cocktail.
Absolument.
Et puis,
absolument.
Comme vous voyez, madame, monsieur, c'est un avocat très habile, qui parle très bien français, qui comprend bien notre cause, la cause des francophones. Alors, j'espère que les gens seront nombreux à aller sur votre site. Et encore une fois, merci du fond du cœur. Comme partenaire, vous faites un beau travail. Je suis convaincu que les auditeurs sont très conscients de l'importance des droits de la personne et surtout votre service qui est là pour leur apporter du soutien et de l'aide, n'est-ce pas?
Je vous remercie énormément. J'ai bien hâte de fêter les 30e avec vous.
Au revoir. Et à bientôt. Au revoir. Et oui, madame, monsieur, nous arrivons presque à la fin de notre émission et je remercie encore une fois tous ceux et celles qui ont participé de près ou de loin au succès de nos célébrations du mois de l'histoire des Noirs à l'antenne. Et aujourd'hui, c'était tout un honneur pour nous de recevoir à nouveau Dr. Éric Pierre, consul honoraire d'Haïti, fondateur de Perspectives d'entraide humanitaire et Maître Cédric Lamarche du cabinet d'avocats Signe Lamarche. Merci à Ron Dobera. Ici Eric Cadet, je vous donne rendez-vous dimanche prochain, la première émission de la francophonie à l'antenne. Au revoir.
Joun ta fè mix pou la ou pap ka ebranle li. Toujou met lot nan sa fè li. Pou sa gen ek vle rayi li. Mgarantou ou met al kay bo pou ou pap ka manje li. DJ sa pa yon jè tande. Li pa fè restande. Rekor sou rekor chak ane. Betren sa ou son malè bonje. Tout moun ka pou deja pale. Chèd mas deja motive. Bon naiv se pa pale. Tout daiv se an ale.
Pale, pale, pale. Pale, pale, pale.
Je ne m'as pas souqué, qu'on arrive dans mouté, car tout ça c'est